Bienvenue sur Graines d'IUT, animé par des étudiants en BUT Génie Biologique, parcours Agronomie de Digne-les-Bains. Notre émission est là pour vous divertir avec bonne humeur et spontanéité. Graines d'IUT, l'émission qui fait germer les idées.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Graines d'IUT. Aujourd'hui, vous allez pouvoir écouter différents sujets présentés par les étudiants et ce, jusqu'à 20h. Ce projet radio est réalisé dans le cadre du cours de communication réalisé avec le professeur Olivier Valency de l'IUT de Digne-les-Bains. Cette émission est donc réalisée par les étudiants en première année en section génie biologique à l'IUT. Plusieurs groupes vont se succéder ce soir jusqu'à 20h pour vous présenter différents sujets et thématiques sans lien les uns avec les autres. Nous allons donc commencer avec mes camarades Arthur, Servan et Alexandre, et je me présente Maé, par vous présenter un thème sur les Jeux Olympiques de 2030 qui doivent se dérouler dans les Alpes françaises du 1er février au 17 février 2030. Ces Jeux, à peine annoncés, commencent déjà à faire débat. Aujourd'hui, nous allons donc décrypter pour vous les enjeux de ces JO afin de savoir s'il s'agit d'une opportunité pour les Alpes françaises ou bien s'il s'agit d'un fiasco en devenir. Nous allons donc commencer par vous présenter ces JO en eux-mêmes, mais avant ça, une page de musique avec Queen, We Are The Champions. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime, and bad mistakes, I've made a few. Et nous revoilà sur les ondes de Fréquence Mistral. Donc nous allons pouvoir passer à la présentation des JO. Et je laisse Arthur vous présenter ces JO de 2030.
Alors oui, bonjour. Donc je vais faire une petite présentation vite fait. Tout d'abord, quand se passent ces Jeux Olympiques? Comme Maël l'a dit, ils se déroulent dans les Alpes françaises du 1er au 17 février. Et seront suivis par les Jeux Paralympiques du 1er au 10 mars. Tout ça dans l'année 2030. Les épreuves vont se dérouler dans différentes régions de France et dans différentes stations. Tout d'abord, les Alpes-Maritimes accueillent les épreuves de curling de patinage sur glace qui se déroulent à Nice, mais cette ville est aussi celle qui accueillera les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques. Puis il y a la Haute-Savoie, les stations de la Clusaz et le Grand Bornand qui accueillent les épreuves de ski de fond et de biathlon. En Haute-Savoie, les stations de Courchevel, Méribel-Pozel et La Plagne auront lieu les épreuves de ski alpin, de saut à ski, ainsi que celles de combiné nordique. Et enfin, dans la région des Hautes-Alpes, les épreuves de ski cross et de snowboard cross se dérouleront aux stations du Mont-Genèvre et de Serre-Chevalier. De plus, il faut savoir que la France n'ayant plus de pistes de patinage de vitesse, cette épreuve se déroulera probablement chez son voisin italien à la piste de Turin. À la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques, la cérémonie de fermeture aura lieu à la promenade des Anglais située à Nice et qui s'étend sur 7 km. Il faut savoir aussi que ces Jeux Olympiques de 2030 seront contraints à des exigences environnementales qui seront mises en place en matière de développement durable, telles que l'obligation pour les organisateurs de minimiser les émissions de CO2 directes et indirectes liées aux Jeux, mais aussi les organisateurs vont user de leur influence pour encourager les parties prenantes, donc les athlètes et les organisateurs, à adopter des mesures en faveur du climat et dans le but de réduire les émissions de carbone. Ils ont également pour projet d'organiser de grands événements pour promouvoir les bienfaits du sport sur la santé dans un contexte hivernal, comme ce qui a été fait à Paris au début des Jeux Olympiques de 2024 lors du Marathon pour tous, qui a pu accueillir plus de 200 000 participants.
Merci Arthur pour toutes ces informations. Nous allons maintenant pouvoir aborder le sujet du budget, qui est un sujet brûlant autour de ces jeux. Et je vais donc laisser Alexandre présenter ce sujet.
Merci beaucoup Maë. Alors effectivement, le sujet du budget est très important, puisque la France a certaines difficultés financières, notamment ces dernières années. Donc actuellement, le budget serait de 1,5 à 3 milliards d'euros, avec des retombées économiques estimées à 3,6 milliards d'euros. Si ce budget viendrait à être tenu, ça serait l'un des budgets les plus bas des histoires des Jeux Olympiques, simplement depuis 1988 aux Jeux Olympiques de Calgary. Mais c'est peu probable, car le budget des Jeux Olympiques sont souvent dépassés, comme par exemple lors des JO 2024 qui se sont déroulés en France à Paris, où le coût prévisionnel était de base de 6,2 milliards d'euros. Au final, il s'est étendu à 11 milliards d'euros, dont 4,6 milliards de fonds publics, notamment pour nettoyer la Seine. D'ailleurs, d'après la presse de Paris, les retombées des fonds publics auraient créé un bénéfice de 26,8 millions d'euros, qui est un chiffre assez conséquent quand même, et ne pas sous-estimer. Les stratégies de financement restent différentes, elles sont multiples. La plupart du budget est financé par l'État, mais aussi par les sponsors de la compétition des Jeux Olympiques ou par des petites entreprises. Elles sont estimées à 550 millions d'euros lors des Jeux Olympiques 2024. Cependant, le projet reste incertain en raison du vote du Parlement français concernant l'engagement financier de l'État, où il y a beaucoup de disputes. Je vais maintenant passer la passe à Servan.
Alors, merci beaucoup pour la parole. Maintenant, je vais vous présenter les bénéfices et les avantages que peuvent présenter les JO, car en effet, si la France accueille les Jeux Olympiques sur son territoire, c'est pour une bonne raison, elle pourrait en tirer de nombreux profits. Les potentielles retombées économiques, tout d'abord, sont estimées à environ 3,6 milliards d'euros, comme on l'a dit précédemment, notamment pour les régions concernées qui accueilleraient les épreuves, que sont les régions Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On peut aussi ajouter à ceci la création de près de 45 000 emplois dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration ou encore de l'audiovisuel pour soutenir les Jeux et les rendre visibles et appréciables de tous. Mais il y a aussi l'impact des Jeux sur le tourisme à prendre en compte, car en effet, on attend de ces Jeux qu'ils fassent ou refassent découvrir la grandeur des Alpes françaises ainsi que la qualité des services qu'elles proposent. En d'autres termes, les Jeux d'hiver 2030 mettraient les Alpes au devant de la scène et boosteraient le développement touristique autour de ces stations. En plus de cela, les Alpes semblent toutes trouvées pour accueillir les épreuves. La majorité des infrastructures nécessaires sont déjà sur place, je vous parle bien sûr des pistes de ski, mais aussi des logements pour accueillir les athlètes, car au total, c'est presque 50 000 places d'hébergement qui sont prévues à moins de 30 minutes des sites de compétition. Et pour finir, un sondage a été réalisé pour appuyer tous ces bénéfices auprès de la population française, et il en ressort que presque 70% des Français encouragent les Jeux Olympiques d'hiver sur leur territoire. C'est un chiffre qui reste à nuancer, car il est moins important que pour les JO 2024, mais qui reste assez conséquent tout de même.
Merci messieurs pour toutes ces informations. Donc nous avons commencé par vous présenter les points positifs que pourraient apporter ces Jeux d'hiver en France durant l'hiver 2030. Nous allons donc maintenant passer aux problèmes et aux défis, notamment auxquels vont être confrontés ces Jeux d'hiver. Mais avant ça, une page de musique avec We Will Rock You. Voilà, nous allons donc pouvoir passer à la deuxième partie de l'émission, la présentation des problèmes auxquels sont liés ces jeux. Donc tout d'abord, nous allons parler des problèmes économiques et politiques, et ils sont nombreux. Donc tout d'abord, les risques économiques. En effet, il y a un risque de déficit élevé autour de ces JO, notamment à cause du coût d'organisation. Ils sont estimés à environ 3 milliards d'euros, mais ils pourraient s'avérer bien plus chers. Par exemple, en cas d'utilisation de neige artificielle, de travaux encore imprévus ou d'autres multiples problèmes qui pourraient survenir dans le futur. On peut également souligner un plus faible engouement du public pour les Jeux d'hiver que pour les Jeux d'été. En effet, on peut prendre l'exemple par exemple des Jeux de Pyongyang en 2018 où seulement 1,5 million de billets ont été vendus. Donc seulement, c'est quand même beaucoup. Mais par exemple, si on les compare aux Jeux de Paris cet été, on est à 8 millions pour les Jeux de Paris. Donc c'est quand même un écart considérable entre deux Jeux Olympiques. Donc ça va apporter forcément beaucoup moins. On peut également voir, donc dans un deuxième temps, le contexte politique qui est quand même assez tendu en France en ce moment. Là, en plus, l'État doit, pour ces JO, s'engager à rembourser un possible déficit des Jeux. Donc c'est quand même quelque chose de pas si évident que ça dans un contexte économique plus que tendu. Hein. On sait que la France a à peu près 3000 milliards d'euros de dettes, donc c'est quand même énorme. Le contexte social est quand même guère mieux, donc s'engager en ce moment à financer des JO à plusieurs milliards d'euros alors que les Français sont axés sur leur pouvoir d'achat, est-ce réellement une bonne idée ? On peut également souligner dans le cas des problèmes politiques on est dans une période de forte instabilité politique où le président de la République est dans son second mandat, et dans l'année 2024 nous avons connu 4 gouvernements successifs avec respectivement Elisabeth Borne, Gabriel Attal, Michel Barnier et François Bayrou, donc 4 ministres des sports différents, ce qui complique les choses. De plus, en 2030 Emmanuel Macron aura fini son quinquennat qui se finit en 2027. Donc peut-être que le futur gouvernement ne sera pas très en adéquation avec les Jeux, ce qui va encore compliquer la mise en place et le bon déroulement de ces Jeux d'hiver. Cependant, les JO, ils sont pas confrontés qu'à des problèmes économiques et politiques. S'il n'y avait que ça, cela serait trop simple. Il y a également d'autres problèmes, notamment des problèmes environnementaux, dont va vous parler Servane tout de suite.
En effet, en plus de l'organisation déjà incertaine des Jeux Olympiques 2030, les conditions météorologiques ne seront pas forcément optimales. Car vous en doutez sans doute, le changement climatique n'aura pas disparu d'ici là. Bien au contraire, d'ici 2030, on nous annonce une augmentation des températures de 1 degré à 2 degrés. Avec de telles augmentations, les Alpes vont devenir de moins en moins blanches et de plus en plus vertes. On le sent déjà, la neige arrive plus tard, part plus tôt, les petites stations sont en difficulté et certaines sont contraintes d'arrêter leurs activités. À chiffre d'exemple, en France, c'est 186 stations qui ont fermé définitivement leurs portes et leurs services au tourisme pendant l'hiver. On craint donc une météo incompatible avec les épreuves prévues. Dans ce cas-là, les épreuves seront grandement dépendantes de la neige artificielle. Les besoins en neige seront donc assurés par l'utilisation massive de canons à neige, mais aussi d'acheminement direct de celles-ci via des camions. Par des méthodes dites de snow farming. Plus précisément, la technique de snow farming, c'est une méthode qui consiste à produire un tas de neige vers la fin de l'hiver dans des endroits appropriés où les températures restent assez basses toute l'année, pour ensuite le conserver pendant la période estivale en le recouvrant d'une couche isolante constituée de sciures de copeaux, de bois, afin de faire comme une espèce de sarcophage qui garderait la neige au frais et qui permettrait ainsi de la conserver jusqu'à 80% de sa masse initiale d'une saison à l'autre, et donc de la réutiliser à la saison d'après. Donc voilà pour ça.
Est-ce qu'on peut également, par exemple, parler de l'impact en rejet de CO2 que pourraient potentiellement avoir ces jeux ?
Eh bien, je n'ai pas trouvé de chiffres là-dessus, mais s'ils sont aussi consommateurs de CO2 que ceux de Pékin 2022, on aurait du souci à se faire, j'y viens tout de suite, après.
Parce qu'en fait, ils ont rejeté combien, du coup, les Jeux de Pékin ?
Les Jeux de Pékin 2022 ont rejeté 469 000 tonnes de CO2 sur la totalité des épreuves. Tout en comptant les touristes qui seraient venus y assister en avion, en comptant l'énergie nécessaire pour la production de pistes de neige, on a vu des images assez impressionnantes où il n'y avait de la neige que sur les pistes skiables et tout le reste de la montagne était totalement déneigé, était tout vert. Ça laisse des idées assez sombres sur ces JO-là. Toutefois, si jamais cela se fait, la gestion de la neige artificielle pourrait provoquer plusieurs problématiques, majoritairement sur la ressource en eau des massifs. J'ai un chiffre assez impressionnant à vous dire. Pour produire 2 à 3 mètres cubes de neige artificielle, il faut environ 1000 litres d'eau. C'est pas du tout rien. Ça a de quoi d'ailleurs inquiéter les experts du climat qui affirment que les précipitations sont en large diminution depuis plusieurs années dans les Alpes et ailleurs, mais ça reste assez conséquent dans les Alpes. Et à titre d'exemple, l'année 2022 a subi un déficit hydrique de près de 40% sur la période de janvier à août. Donc les nappes phréatiques sont moins remplies, les glaciers fondent plus vite et ne sont pas renouvelés. Et il y a donc des ressources moins importantes qui ont de plus en plus de mal à assurer la distribution en eau destinée à l'usage domestique et à l'écoulement de l'eau nécessaire au bon fonctionnement des écosystèmes alpins. On espère donc que les Jeux Olympiques 2030 n'auront pas les mêmes statistiques que ceux dont tu nous as parlé de Pékin 2022, car, comme je l'ai dit, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était les JO de Pékin 2022, du 100% de neige artificielle et une empreinte carbone assez catastrophique.
Merci Servane pour toutes ces informations. Ces JO ne se contentent toujours pas de seulement ces petits problèmes, mais on peut également y rajouter d'autres problèmes, tels que la capacité d'accueil, dont va vous parler Arthur.
Oui, alors en effet, on peut voir que la capacité d'accueil de ces Jeux Olympiques va être un autre problème, car dans le but d'accueillir du coup toutes les athlètes et les parties prenantes de ces épreuves, il va y avoir la mise en place de 5 villages olympiques accueillant chacun environ 6000 personnes et tous situés à 30 minutes maximum du lieu des épreuves. On pourra les retrouver en Savoie, en Haute-Savoie et à Briançon. Mais malgré le fait d'avoir 5 villages olympiques, il restera presque 35 000 personnes à loger juste pour l'organisation des Jeux. Il y a également la répartition géographique des épreuves. Donc en termes de capacité d'accueil, celle-ci est moins importante que comparée aux Jeux Olympiques de Paris de 2024, car les stations et les villes alentours, le nombre de places d'accueil des spectateurs est beaucoup plus limité qu'à Paris. Et de fait, en raison du positionnement géographique des épreuves, donc comparé à Paris, il y a environ 4 millions de personnes qui peuvent être accueillies au maximum sur 2 semaines et demie d'épreuves, comparé à 12,4 millions de spectateurs qu'il y a eu lors des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Donc cette capacité maximale sera de 4 millions de personnes, bien sûr, sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, mais ce qui reste quand même beaucoup plus faible comparé à l'année dernière. Il ne faut pas aussi oublier que durant les Jeux Olympiques, seule une petite partie des pistes seront utilisées pour les épreuves, et que là où celles-ci ne se déroulent pas, les autres pistes seront ouvertes et skiables, ce qui limite encore un peu le nombre de places pour l'accueil des spectateurs, car certaines personnes ne viendront pas pour voir les épreuves, mais surtout pour skier. Et de plus, il faut compter environ 40 000 hébergements pour les parties prenantes, ce qui représente environ 200 à 500 000 places en moins.
D'accord, merci Arthur. Cependant, est-ce qu'on pourrait pas également soulever le point de la difficulté, par exemple, d'accès aux stations, parce que on peut voir quand même que dans une ville comme Paris, il y a un réseau de transports en commun assez dense, des voies ferrées, tout ça, pour transporter des spectateurs jusqu'au pied des stades, alors que dans les Alpes, bah, on peut citer quelques aéroports, par exemple Grenoble, Genève ou Lyon un peu plus loin, mais sinon c'est assez restreint.
Oui, en effet, alors déjà le nombre d'aéroports, même s'il y en a quelques-uns, ils sont beaucoup plus petits. Et même en termes d'accessibilité par les transports en commun comme le train ou les bus est beaucoup plus limité et il est plus utile de prendre la voiture. Beaucoup plus de personnes viendront en voiture que autrement.
Merci Arthur pour cette fin. Nous allons enfin pouvoir conclure sur les controverses et les oppositions multiples et diverses que subissent CJO, et c'est Alexandre qui va vous présenter ceci.
Effectivement, dans tout ce qui est l'organisation du comité, il y a beaucoup de controverses, notamment avec Martin Fourcade, qui était l'un des directeurs du comité des Jeux Olympiques. Donc, qui est Martin Fourcade? Martin Fourcade, c'est un champion du monde et champion olympique de biathlon, donc il s'y connaît un peu dans tout ce qui est gestion des Jeux Olympiques. Il s'est retiré du projet des JO en disant que c'était critiquant l'inadéquation des JO avec ses valeurs. Donc, qui montre que le comité gère mal les JO. Il y a également d'autres athlètes qui ont été soutenus par le comité, mais qui ont également rejeté l'offre. Ce ne sont pas les seules controverses oppositions de ces JO 2030. Il y a aussi des mouvements écologistes qui s'opposent sur les risques financiers et environnementaux, comme vous ont dit précédemment Servan et Arthur, qui soulignent plusieurs questions sur l'avenir de ces JO 2030 en France.
Merci messieurs pour toutes ces informations. Il me revient donc le fait de conclure. Donc on peut résumer que ces JO de 2030 dans les Alpes françaises sont à la fois un sujet qui suscite beaucoup d'espoir et de retombées économiques, notamment dans le secteur du tourisme, qui peut espérer beaucoup de ces Jeux, car cela lui ferait une excellente publicité. Cependant, ces JO soulèvent aussi de nombreuses préoccupations, autant d'un point de vue financier et social, du fait d'une dette française grandissante, que d'un point de vue écologique dans le cas de l'utilisation des canons à neige et de la neige de culture. Nous vous remercions pour votre écoute et nous vous disons au revoir sur les ondes de Radio Mistral. Tout de suite, The Final Countdown Europe.